Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Bonjour Fabienne.
Nous sommes vendredi.
Ah, le week-end approche.
Voilà.
Est-ce que c'est encore un week-end à rallonge ou pas, dans cette fois-ci? Non.
Non, je crois pas.
Non. Voilà.
Je regarde pas. Bah, la semaine dernière, c'était pas un week-end à rallonge pour nous, Dominique. Hein.
Ben non, nous, on travaille tout le temps.
Alors?
Bah écoutez, il y a une chose qui m'a choqué énormément. On parlait hier, vous savez, on finissait sur la drogue là, pour les adolescents. Mais quel message on envoie aux adolescents à travers le sport? J'ai vu qu'il y avait une opération à Roland-Garros, une opération de Tsonga. J'ai oublié son prénom. Tsonga, le joueur de tennis qui a pris sa retraite.
Je me souviens plus.
Ok, un garçon fort sympathique d'ailleurs. Et ses parents, en 2009, quand il a commencé, avaient mis une association en place qui s'appelle Attrape la balle. Et alors, ils font une opération et il y a des dons qui sont donnés, y compris pendant le tournoi de Roland-Garros. Il y avait des matchs dont la recette irait à cette association.
Joe Wilfried.
Pardon ?
Joe Wilfried.
Joe Wilfried Tsonga, voilà. Mm. Oui, bah c'est normal que j'oublie, c'est un peu compliqué pour moi. Déjà, il y a deux Joe Wilfried, c'est compliqué. Et donc, alors c'est l'insertion par le sport. Alors voilà, ça c'est des belles initiatives. Mais par ailleurs, quand je lis que parallèlement, alors ça m'a révolté. En rugby, qui est le sport que vous préférez, je le sais, Fabienne.
Oui, j'aime le rugby.
Voilà. Oyonnax, le club d'Oyonnax qui est en finale de Pro D2. Pro D2, c'est ce qui permet d'accéder quand on est en finale, comme ça, si on gagne, on va en top 14, l'équivalent de la Ligue 1 en football. Voilà. Eh bien, l'équipe d'Oyonnax aligne deux joueurs, Grice et Farrell. Grice, c'est un néo-zélandais et Farrell, un Irlandais. Ils sont sur le terrain et ils jouent. Alors qu'ils sont convoqués pour comparaître aux assises, le premier Grice, donc pour viol en réunion, et l'autre pour non-empêchement de crime. Vous vous rendez compte qu'il y a un entraîneur, il y a un directeur sportif, il y a un président de club, qui bien que les gens doivent pas... Je sais bien qu'il y a la présomption d'innocence, d'accord, mais la présomption d'innocence c'est un aspect juridique, judiciaire, mais que quand on est... convoqué par les assises, il y a quand même l'entraîneur ou le président de club, ou je sais pas où, qui pourrait dire, attends, tu vas quand même te reposer, d'abord tu prépareras mieux ta défense, mais on va pas t'aligner sur un terrain pour un sport qui mobilise la jeunesse, qui enthousiasme la jeunesse, enfin quel message on envoie? Faut quand même un petit peu, de temps en temps, raisonner.
C'est la décivilisation.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, parce qu'on veut le résultat sportif. Alors, j'attends les féministes là-dessus. Parce que comment on veut le résultat sportif? Ce sont sûrement des très bons joueurs de rugby. On ne disconvient pas. Justement, parce que ce sont des bons joueurs, on ne veut pas s'en priver. Bien quand même qu'ils aient aux fesses un procès en assises. Ça veut dire qu'il y a des éléments. Ça veut dire qu'il y a une instruction qui a eu lieu, qu'il y a des éléments, des indices graves et concordants qui permettent de les envoyer aux assises. Ben, qu'on n'ait pas la prudence, qu'on n'ait pas la décence de dire à ces gens-là, ben, tu vas rester au vestiaire ou tu vas aller, voilà, puis c'est tout, mais bon, on va pas te mettre, bien que ce soit la finale, on va pas te mettre là. Et puis on expliquerait aux gens, aux jeunes, pourquoi.
Ah oui.
Ils se sont privés de finale.
Ils sont violents, donc ils n'ont
ils
pas
se sont privés de finale. Et vous avez, je sais pas, un joueur de l'équipe de France aussi, là, qui a reconnu les faits. Il a tabassé sa femme, il a frappé sa femme devant
son ex-compagne.
Enfin, bon,
de toute façon, il n'y a que ça en ce moment. Les faits divers, la violence.
Alors, j'évoquais Roland Garros.
Ah.
Vous avez vu les images? Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y avait une Ukrainienne contre une Biélorusse. La Biélorusse a gagné le match contre cette joueuse ukrainienne. L'Ukrainienne a refusé de lui serrer la main. Bon, elle s'est fait huer un peu par le public. Mais je me disais, si c'est une Russe, Biélorusse ou Russe, parce que c'est pas tout à fait le même pays, mais ils sont proches, y compris Biélorusse, c'est plutôt le président Biélorusse, est plutôt, il est très associé à Poutine, y compris dans l'affaire d'Ukraine. Et si c'était un Russe, par exemple Medvedev, qui gagne, qu'est-ce qu'on fait avec les hymnes? Vous imaginez en ce moment l'hymne russe en plein Paris? Non, je ne sais pas comment on va faire. Alors, je l'ai déjà dit, moi je suis favorable à ce que les athlètes russes puissent participer aux manifestations sportives. Je suis favorable. Parce qu'il faut pas faire la guerre contre les peuples. Si un jour on veut que ça se réunisse, vous savez, plus on les mêlera aux Jeux Olympiques et tout ça, plus ils repartiront avec peut-être des doutes sur la politique de leur chef. Ils sont pas responsables de Poutine, hein, bon. Non. Non, mais je pense qu'il faut pas couper les liens entre les peuples, surtout les liens à travers le sport, entre les peuples. Donc, ils participent à Roland Garros, ils pourront participer à Wimbledon.
Et aux Jeux Olympiques?
Je crois que oui.
Oui.
Je crois que oui. Enfin, pour l'instant, je peux me tromper, mais je crois que oui. Donc, je suis assez favorable à ça, que y ait pas, plus on victimisera les peuples, plus on en fera des martyrs, les peuples, plus ça crispera les choses. Donc voilà. Mais alors après, il y a la symbolique de l'hymne. Je sais pas comment on pourra se débrouiller. Je sais pas comment on pourra se débrouiller.
L'Ukrainienne qui a pas voulu lui serrer la main, c'est un peu ridicule, quand même.
C'est un peu ridicule, mais psychologiquement, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Mais enfin bon, là aussi, il y a une responsabilité des adultes, des entraîneurs. Le tableau, il a pas été fait hier matin, le tableau. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on sait, ça fait au moins quelques jours qu'on sait qu'elle va rencontrer l'entraîneur, le président de la fédération, ou Monsieur Zelensky lui-même, puisqu'il veut être partout. Il peut lui téléphoner, ah ben oui. Lui dire, écoute, tu vas jouer en Bélarus, ça ne nous enchante pas, mais pense à l'image de l'Ukraine et la sportivité de serrer la main de cet adversaire qui est simplement une joueuse de tennis contre une autre joueuse de tennis. Mais ça, ça leur vient pas à l'esprit, vous comprenez?
Alors, poursuivons.
Il y a Elisabeth Borne qui a, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle La Secrète, qui est de Bérangère Bonte. Elle est une bonne journaliste, Bérangère Bonte, ça fait pas de l'ombre d'un doute. Et alors, de son livre, elle laisserait entendre, ou elle dirait assez clairement que Elisabeth Borne est lesbienne. Ce dont, je tiens à le préciser, je n'ai strictement rien à foutre. Que ce soit lesbienne ou pas lesbienne, ça ne m'intéresse pas. Mais on retient que ça. Alors je pense, connaissant un peu Bérangère Bonte, j'ai la chance de connaître un peu, je n'ai pas lu son livre, mais je pense que la façon dont elle travaille d'habitude est extrêmement rigoureuse et sérieuse. Alors je pense que son livre a bien d'autres choses sur la personnalité, sur le parcours d'Elisabeth Borne. Mais on le retient.
Est-ce que c'est un livre uniquement sur Elisabeth
Borne? Oui, il s'appelle La Secrète. Voilà. Donc, alors elle est... Voilà. Alors, Elisabeth Borne, moi, je trouve que... Bon,
oui, il y a l'histoire d'un monsieur, apparemment, qu'elle aurait dit qu'elle était avec lui, que c'était son compagnon, oui, et finalement, il est paxé avec quelqu'un d'autre.
Oui, donc ce serait pas son compagnon. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, on va toujours nous donner l'argument, mais oui, mais c'est des gens qui s'occupent de nos affaires, qui gèrent notre pays, on a le droit de savoir quelles sont leurs orientations. Mais on n'a pas le droit de savoir avant les faits. Si on constate qu'il y a des décisions qu'elle prend, et qui sont manifestement dans l'intérêt d'un lobby, quel qu'il soit, sexuel ou autre, là on peut sortir la chose et poser des questions. Mais si sa gouvernance est totalement purgée et vierge de toute influence de cette nature, qu'elle soit LGBT ou autre, eh bien il y a rien à en dire. Et puis je trouve que finalement, en mettant ça en exergue sur toutes les chaînes et toutes les radios, ça contribue à la baisse perpétuelle du niveau du journalisme. Voilà. C'est-à-dire, il faut traiter ça à la place que ça a. Voilà. Dire c'est, peut-être que c'est le cas, mais qu'est-ce que ça a à faire? Voilà. Faut replacer ça dans le remettre en perspective. Quoi. Voilà.
C'est pas... Oui, parce que est-ce que son bilan positif, par exemple, à la RATP, elle a eu un bilan positif?
Voilà, c'est ça, c'est jugé.
Voilà. Ouais.
Et puis, il y a quand même. Je vais me faire, je suis, vous savez, très antisexiste, je ne veux pas dire féministe, mais je suis pas sûr que si ça avait été un homme homosexuel, ça aurait pris autant de place dans les médias. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des ministres qui ont fait leur coming out, dont là, pendant les crises, enfin voilà, bon, il y a plusieurs ministres qui sont homosexuels, bon, ils sont, et alors, qu'est-ce que ça peut de faire tant qu'ils
travaillent?
Oui, et tant que ça n'empiète pas idéologiquement, moralement, enfin, je sais pas, sur les décisions qu'ils prennent, mais tout va bien. Et je pense que, voilà. Alors, par contre, elle m'a choqué, Elisabeth Borne, dans une interview qu'elle a donnée à Radio J, qui était une radio juive, comme son nom l'indique, et où elle fait du RN. Elle dit RN, bon, c'est idéologiquement dangereux, héritier de Pétain, le Rassemblement National héritier de Pétain. Il faut quand même arrêter avec ça. Parce que c'est faux. politiquement. D'abord, c'est une erreur d'analyse. Pétain, c'est quoi? C'est l'occupation allemande. Donc c'est une situation politique complètement particulière.
Oui.
C'est à un moment l'occupation allemande derrière une débâcle phénoménale qu'il faut-il le rappeler à Madame Elisabeth Borne arrive après 4 ans de gouvernement de gauche, populaire, voilà, et donc dans une impréparation absolument incroyable, la débâcle, Pétain. Fait du Pétain, voilà. Et dire que le RN aujourd'hui serait l'héritier de Pétain, c'est quand même assez vite en Bologne. D'abord, on va répéter ce qu'on dit toujours. C'est une chambre de gauche qui vote les pleins pouvoirs à Pétain, à l'exception des communistes, parce que l'économie, les partis communistes est interdit depuis qu'il a rejoint l'Union soviétique dans ce pacte de non-agression germano-soviétique. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on n'en parle plus et on n'en trouve plus. Il y a des affiches du Parti communiste français pour inciter les gens à faire bon accueil aux soldats allemands. Hein, en 1940, ça on l'oublie, c'est plutôt la gauche, hein, le Parti communiste. C'est les socialistes comme Doriot, comme tout ça, enfin voilà, le maréchal Pétain. Avant d'être à Vichy, qu'est-ce qu'il était? Il était ambassadeur, donc, nommé par le gouvernement du Front Populaire à Madrid. Bon. Donc c'est pas la droite, l'extrême droite. Donc déjà, historiquement, c'est faux. Et beaucoup de la droite, surtout de l'Action française, étaient des premiers résistants. Ils ont été parmi les premiers résistants. Donc voilà. Historiquement, donc c'est une caricature. Et en plus, c'est pas du tout le cas. L'héritier de Pétain, c'est pas l'héritier de Pétain, c'est le Rassemblement National, ça n'a à peu près rien à voir, ça n'a à peu près rien à voir. Mais ça fait le buzz, voilà.
Encore une fois, voilà. C'est toujours
donc le buzz. Donc je m'attendais à ce que Madame Borne, qui n'est pas une politique, c'est une ingénieure, hein, c'est une femme et d'une rigueur extraordinaire dans le travail, une travailleuse, elle est très dure avec son entourage dans le travail, hein, elle est très exigeante, mais c'est une femme qui connaît parfaitement ses dossiers et tout ça, voilà. Donc, mais là j'ai trouvé que son analyse était un peu populiste. Ah, ça me fait dire quand même qu'ils sont un peu aux abois, ils sont en panique, c'est-à-dire que Monsieur Macron, à mon avis, commence à vivre dans la terreur d'être le Obama français. Le Obama français, ça veut dire le Obama a vu arriver derrière lui Trump. Mmh. Et que Monsieur Macron a la trouille d'être celui qui va faire accéder Marine Le Pen ou tel candidat du Rassemblement National en 2027. Et ça commence à les agiter. Et vous savez, quand il y a des élections, ce camp-là, le camp du centre, dit toujours mais le Rassemblement National agite le spectre de la peur de l'immigration, la peur de l'étranger. Mais là, qu'est-ce que c'est sinon agiter le spectre de la peur, le retour du fascisme, le retour de Pétain, voilà. c'est n'importe quoi. Il vaudrait mieux qu'ils aient des arguments intéressant et
mais là, construit. Il remonte un peu dans les sondages, apparemment,
oui, oui, oui.
Ah, Macron.
Bien sûr, oui, il remonte, oui, bien sûr. Beaucoup de présence médiatique, il remonte. Bon, on verra, il y a la quinzaine qui s'annonce est un petit peu dangereuse, quand même.
Alors, pour terminer.
La réélection de Recep Erdogan à la tête de la Turquie. Donc, il est depuis 20 ans, il en reprend pour 5 ans.
Ça fait déjà 20 ans qu'il est là ?
Oui.
Ah oui ?
Oui, oui. Et avant, il avait été maire d'Istanbul. Ce qu'on oublie souvent dans les commentaires, c'est qu'il a été un bon maire d'Istanbul. Il a beaucoup modernisé sa ville, beaucoup assaini sa ville, enfin voilà. Et donc, il est élu, il a fait une majorité il y a une quinzaine de jours. Il a gagné les législatives avec ses alliés ultranationalistes. Le nationalisme a fait des percées, hein. Bon, voilà. Et donc, il est réélu. Il a battu le candidat. Alors, le candidat qu'il a battu, on a quand même beaucoup aidé à l'échec de ce candidat. On a favorisé, on l'a un peu torpillé, ce candidat. On a trop dit que c'était le candidat privilégié de l'Occident. Que c'était le favori de nous, de l'Europe. Et ça, c'était un argument contre lui en Turquie. Parce qu'on s'imagine encore que quand l'Europe parle, quand la France parle, c'est le phare du monde. Et que les gens vont béatement suivre. Non, ça a mobilisé contre lui et donc en faveur d'Erdogan tout ce qui est l'anti-Occident, l'anti-Europe actuellement en Turquie et qui est nombreux. Et qui est, voilà. Donc on n'a pas rendu service à ce candidat. Tous les médias le donnaient gagnant. il avait tellement envie qu'il gagne, tout ça. Je pense qu'on a une responsabilité dans le dans la réélection d'Erdogan. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour ce front occident, américano-occidental, par rapport à l'Ukraine, parce que c'est le candidat de Poutine qui a gagné. Mmh. C'est le grand allié de Poutine. Donc là, vous avez un axe politique. Poutine se trouve renforcé, indirectement, mais il se trouve renforcé par l'élection d'Erdogan.
Non, j'ai pas voté.
Il y a une chose que je veux ajouter. Quand même, il a fallu, en 2021, faire une loi qui n'a pas été respectée au premier tour des élections en Turquie pour, en France, interdire que dans les mosquées ou dépendances de mosquées, on mette des bureaux de vote. C'est-à-dire qu'on a voté à Lyon, dans des mosquées pour des élections en Turquie.
Chez nous ?
Oui, oui.
Ah bon ?
Dans les dépendances. Alors, au deuxième tour, je ne sais pas. Mais au premier tour, ça avait été constaté. Donc, il a fallu rappeler la séparation. Voilà.
Bon, on se retrouve lundi.
Oui.
Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Vous pouvez nous réécouter la totalité de la semaine demain matin à la radio, sur la FM ou sur le DAB. Et vous pouvez également nous réécouter en podcast sur Internet. Merci à tous pour votre fidélité. On vous souhaite un très très bon week-end.
Merci à tous et oui, très bon week-end.